Ce dimanche, il nous est donné de méditer sur l'annonciation de l'ange à Joseph. Et dans cette histoire de mariage un peu contrariée, évitons un discours et une lecture un peu graveleuse. Nous sommes effectivement devant une crise, un drame, avec des enjeux et une portée théologique et spirituelle. Pour décrire un peu la crise, Joseph est quand même remis en cause, en question, dans son projet de vie affective, dans sa virilité, dans son intelligence, dans sa foi. Pour une part, tout ce projet de vie matrimoniale est remis en question. Rappelons les faits, Joseph est marié, son épouse est Marie, et ils ne mènent pas encore la vie commune. C'est ainsi que se vit le mariage dans le contexte religieux du judaïsme de ce temps. C'est un mariage en étapes. Le lien du mariage est plaigné dès le contrat qui est conclu entre les jeunes gens et la dot versée par la famille de l'époux à celle de l'épouse. Les jeunes gens donc s'appartiennent déjà pleinement l'un à l'autre. Mais chacun reste encore chez soi un instant, jusqu'au jour où l'époux introduira solennellement son épouse chez lui. Ce jour-là, les noces seront consommées. Joseph et Marie sont donc mariés. Et Joseph n'a pas encore pris chez lui Marie, son épouse. Or, il se trouve qu'elle est enceinte dans cette période intermédiaire. Encore une fois, ne méditons pas trop rapidement, ne lisons pas trop rapidement cet évangile comme un mariage qui tourne mal. Joseph devine bien qu'il se passe quelque chose qui ne vient pas de l'immoralité, mais sans comprendre, il devine que cela vient de Dieu. Si j'avais besoin de vous justifier mon propos, lisons bien, cette grossesse plonge Joseph dans la crainte. Nous connaissons l'état intérieur de Joseph par l'ange qui lui dira « Ne crains pas ». Autrement dit, Joseph prend la mesure d'un drame, celui d'une conscience humaine qui est devant l'agir mystérieux de Dieu. La crainte est un saisissement devant Dieu, une expérience qui met le personnage biblique devant l'agir inouï de Dieu. La crainte, c'est une stupeur fascinée, bouleversée, et à la fois une saturation de bonheur, en même temps qu'une sorte de frayeur. Devant la sainteté de Dieu, devant son rayonnement, dont voyons le poids de sa présence devant l'amour inouï de Dieu, Joseph est dans la crainte. C'est bien parce qu'il a pressenti en Marie le mystère devant lequel il est à la fois certain de Dieu et incapable de comprendre, démuni quant à sa propre place à lui. Il craint de prendre son épouse chez lui. Il redoute, autrement dit, de s'approprier pleinement ce qui ne vient pas pleinement de lui et pour lui. Il redoute d'entrer dans cette deuxième étape du mariage, celle sur qui Dieu a mis sa main. Voilà la crise, voilà le drame. Que dois-je faire devant l'œuvre de Dieu qui s'accomplit devant moi? Quel est l'enjeu? Alors nous avons le recul, nous connaissons l'histoire, nous connaissons le dénouement. Il s'agit d'offrir à Dieu la possibilité d'aller au bout de sa fidélité et de sa révélation, de permettre à Dieu d'accomplir pleinement la promesse faite à David, d'ouvrir la lignée dynastique de David au Messie promis, de faire basculer l'histoire du côté du salut et de clore ainsi l'attente du peuple de Dieu par le don inouï du salut que Dieu donne à l'humanité. Tout ça, Joseph l'ignore. Il va donc entrer en lui-même et chercher en conscience comment agir. Nous avons là le témoignage de la beauté spirituelle de ce jeune homme d'Israël qui se déploie et se révèle magnifiquement à nous. Joseph nous est présenté de manière très sobre comme un homme juste. C'est-à-dire qu'il vit dans une rectitude et une pureté de cœur qui le dispose à se conformer à la volonté de Dieu. Joseph est dans la crainte, conscient d'être approché par Dieu dans le mystère de son épouse. D'ailleurs, je vous le suggère, une disposition que vous pouvez méditer dans votre vie de couple. En l'autre, Dieu se révèle. Joseph résolu de répudier en secret Marie, à situation inédite, solution inédite. Il se résout à se délier intérieurement à elle pour renoncer à son épouse, pour être comme en retrait devant la présence de Dieu agissante. Nous avons un écho de cette attitude quand nous sommes témoins de Pierre qui le dira devant Jésus « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur, je ne suis pas digne. » Cette rupture qu'il envisage en secret, laissant à Dieu le soin d'avoir Marie pour lui, puisque quelque chose de Dieu se fait en elle. Laissons pleinement, souverainement, Dieu exercer son poids sur Marie. Mais en formant ce projet dans la crainte, dans la foi, en essayant de s'ajuster au projet de Dieu, Joseph renonce du coup à accueillir le Messie dans la dynastie de David. Il ne pouvait pas le savoir lui-même. C'est ainsi que son discernement va le plonger dans une torpeur, dans une sorte de mort intérieure, dans un sommeil mystérieux où ses facultés vont être comme relâchées. C'est dans le songe que le discernement va s'éclairer. L'intervention de l'ange dans le songe. L'ange va lui restituer, au-delà de cette sorte de mort mystique, tout ce que Joseph avait offert à Dieu. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Elle est tienne et tu es sien. Tu es son mari. Elle est ton épouse. L'ange révèle à Joseph, à lui-même, et lui fait découvrir sa mission dans le plan de Dieu. Tu es fils de David et tu dois donner le nom à l'enfant qui est conçu de l'Esprit-Saint. Dieu te le confie. Dieu te demande de l'intégrer à ta lignée par l'acte de la paternité. Il lui rend pleinement ce que Joseph lui avait offert, en lui demandant de donner son nom. Cet enfant attendu sauvera son peuple de leurs péchés. Ainsi éclairé dans l'épaisseur de sa nuit, Joseph va se réveiller. Nous avons là comme une forme de résurrection après une forme de mort. Le verbe d'ailleurs employé pour dire qu'il se réveille sert d'ailleurs pour signifier la résurrection. Jésus obéit en juste, il prit chez lui son épouse. Cette crise, elle a pour enjeu l'accomplissement de la mission du Christ. Et elle passe par des renoncements, des offrandes, une résurrection. Le fils de Marie par Joseph sera fils de David. Joseph a ouvert au Fils de Dieu la porte de la maison de David. La portée de ce drame, la portée de cette crise, ce drame signale l'intensité de la coopération humaine à l'œuvre divine de l'incarnation. La part humaine à cette œuvre de Dieu, c'est l'acte le plus humain qui soit. C'est ça qu'il faut comprendre. L'acte exclusivement humain qu'aucune créature ne peut poser, pas même l'ange, c'est l'acte de foi. Le miracle passe par notre acte de foi. L'œuvre de Dieu ne se fait pas sans une part humaine, sans une adhésion, sur un acte de foi lucide, déterminé, conscient, posé. Parfois, et le plus souvent, au-delà du raisonnable, au-delà du compréhensible, mais toujours avec le secours de la grâce. Frères et sœurs, nous ne savons pas toujours quoi faire devant les situations qui sont devant nous. Mais en imitant Joseph, nous pouvons apprendre à regarder ce que Dieu fait et de passer par un acte d'offrande et un acte de foi, d'abandon et de reconnaissance. Un acte de foi est inséparablement lié à un acte d'offrande de soi, d'immolation de soi. C'est cela que le Fils de Dieu apprendra de ses parents, qu'il assume dans la condition humaine. Et c'est cela que le Fils de Dieu mènera à son ultime possibilité, à Gethsémani, sur la croix. Cette offrande de Jésus à Dieu notre Père, Jésus l'a appris de Marie et de Joseph. Ce que Jésus reçoit en héritage de Marie et de Joseph, c'est bien plus qu'un patrimoine génétique, un héritage dynastique, celui de David. C'est l'admirable exemple d'une foi humble qui offre les plus hautes possibilités de la créature humaine. Frères et sœurs, chers amis, que Marie et Joseph, à la veille de Noël, nous apprennent cette offrande de nous-mêmes en nous laissant conduire par Dieu au milieu de toutes les crises qui nous sont données de vivre.